Cinquième jour. Prime. Où a lieu une fraternelle discussion sur la pauvreté de Jésus. Le cœur agité par mille angoisses, après la scène de la nuit, je me levai le matin du cinquième jour. Déjà sonnait la première heure, quand Guillaume me secoua rudement en m'avertissant qu'allaient bientôt se réunir les deux légations. Je regardai dehors et ne vis rien. Le brouillard de la veille était devenu un linceul lactescent qui enveloppait manifestement tout le plateau. À peine sorti, je vis l'abbaye comme je ne l'avais jamais vue auparavant. Seules les plus grandes constructions, l'église, l'édifice, la salle capitulaire, se profilaient même de loin, de façon plutôt imprécise, ombre parmi les ombres, mais le reste des bâtiments n'était visible qu'à quelques pas. On eût dit que les formes, choses et animaux surgissaient soudain du néant. Les personnes paraissaient émerger du brouillard, d'abord grises comme des fantômes, puis difficilement reconnaissables. Ayant vu le jour dans les pays nordiques, je n'étais pas neuf à cet élément qui, à d'autres moments, m'aurait rappelé avec quelque douceur la plaine et le château de ma naissance. Mais ce matin-là, les conditions de l'air me semblèrent douloureusement analogues aux conditions de mon âme, et l'impression de tristesse avec laquelle je m'étais réveillé s'accrut au fur et à mesure que je me rapprochais de la salle capitulaire. À quelques pas de la construction, je vis Bernard Guy prendre congé d'une autre personne qu'au premier abord je ne reconnus pas. Puis, comme elle passa tout près de moi, je m'aperçus qu'il s'agissait de Malachie. Il jetait des coups d'œil circulaires, tel un qui veut passer inaperçu tandis qu'il commet un crime. Il ne me reconnut pas et s'éloigna. Moi, mu par la curiosité, je suivis Bernard et je vis qu'il parcourait du regard des feuillets que peut-être Malachie lui avait remis. Sur le seuil du chapitre, il héla d'un geste de la tête le chef des archers qui se trouvait là et il lui murmura quelques mots. Puis il entra. Je lui emboîtai le pas. C'était la première fois que je mettais les pieds dans ce lieu qui, vu de l'extérieur, était de dimension modeste et sobre de forme. Je me rendis compte qu'il avait été reconstruit en des temps récents sur les restes d'une primitive église abbatiale, peut-être détruite en partie par un incendie. En entrant de l'extérieur, on passait sous un portail à la dernière mode, à l'arc en ogive, sans décoration et surmonté d'une rosace. Mais à l'intérieur, on se trouvait dans un vestibule refait sur les vestiges d'un vieux narthex. En face se présentait un autre portail, avec son arc à la mode ancienne, son tympan en demi-lune admirablement sculpté. Ce devait être le portail de l'église disparue. Les sculptures étaient tout aussi belles mais moins inquiétantes que celles de l'église actuelle. Là aussi, le tympan était dominé par un Christ en majesté. Mais à côté de lui, en des poses variées et avec différents objets dans les mains, se trouvaient les 12 apôtres qui de lui avaient reçu mission d'aller de par le monde évangéliser les gentils. Au-dessus de la tête du Christ, dans un arc divisé en 12 panneaux, et sous les pieds du Christ, en une procession ininterrompue de figures, étaient représentés les peuples du monde, destinés à recevoir la bonne nouvelle. Je reconnus à leur costume les Juifs, les Cappadociens, les Arabes, les Indiens, les Phrygiens, les Byzantins, les Arméniens, les Scythes, les Romains. Mais au milieu d'eux, dans 30 médaillons qui faisaient un arc au-dessus de l'arc des 12 panneaux, se trouvaient les habitants des mondes inconnus, dont nous parle à peine le physiologue, et les récits incertains des voyageurs. J'ignorais l'existence de beaucoup d'entre eux. J'en reconnus d'autres. Par exemple, les Brutiens, avec 6 doigts à chaque main, les Fauniens, qui naissent des vers qui se forment entre l'écorce et l'aubier des arbres, les Sirènes, avec leur queue écailleuse, qui séduisent les marins, les Éthiopiens au corps tout noir, qui se défendent des flammes du soleil en creusant des cavernes souterraines, les Onacentaures, hommes jusqu'au nombril et ânes en dessous, les Cyclopes, avec un œil unique de la largeur d'un écu, Scylla, avec sa tête et sa poitrine de fille, son ventre de loup et sa queue de dauphin, les hommes velus de l'Inde, qui vivent dans les marais et sur le fleuve Épigmaride, les cynocéphales, qui ne peuvent dire un mot sans s'interrompre et aboyer, les siapodes, qui courent à folle allure sur leur unique jambe et quand ils veulent se protéger du soleil, s'allongent et dressent leurs grands pieds comme une ombrelle. Les astomates de la Grèce, sans bouche, qui respirent par leurs narines et ne vivent que d'air. Les femmes barbues d'Arménie, les pygmées, les épistiges, que certains appellent aussi blêmes, qui naissent sans tête, ont la bouche sur le ventre et les yeux sur les épaules. Les femmes monstrueuses de la mer Rouge, de 12 pieds de haut, avec des cheveux qui leur arrivent aux talons, une queue bovine au bas du dos et des sabots de chameau. Et puis, ceux qui ont la plante des pieds dirigée vers l'arrière, tant et si bien qu'à les suivre à la trace, on arrive toujours d'où ils viennent et jamais où ils vont. Et encore ceux dont les yeux brillent comme des lampes, et les monstres de l'île de Circé, corps humains et cols des animaux les plus variés. C'était là, parmi d'autres, les prodiges sculptés sur ce portail. Mais aucun d'eux ne suscitait l'inquiétude, car ils ne voulaient pas signifier les maux de cette terre ou les tourments de l'enfer. Ils étaient bien au contraire les témoins du fait que la bonne nouvelle avait atteint toute la terre connue et s'apprêtait à s'étendre à l'inconnu, raison pourquoi le portail était joyeux, gage de splendide œcuménicité. Heureux présage, me dis-je, pour la rencontre qui se déroulera au-delà de ce seuil où des hommes devenus ennemis les uns des autres à cause d'interprétations opposées de l'Évangile se retrouveront peut-être pour vider aujourd'hui leur querelle. Et je me dis que j'étais un bien pauvre pécheur à m'affliger sur mon cas personnel tandis qu'allaient se produire des événements d'une importance sans pareille pour l'histoire de la chrétienté. Je confrontais la petitesse de mes peines à la grandiose promesse de paix scellée dans la pierre du tympan. Je demandais pardon à Dieu pour ma fragilité et, rasséréné, je franchis le seuil. À peine entré, je vis les membres des deux légations au complet qui se faisaient face sur une rangée de sièges disposés en hémicycle, les deux fronts séparés par une table où avaient pris place l'abbé et le cardinal Bertrand. Guillaume, que je suivis pour prendre des notes, me plaça du côté des minorites où se trouvaient Michel avec les siens et d'autres franciscains de la cour d'Avignon. Car la rencontre ne devait pas apparaître comme un duel entre Italiens et Français, mais comme une dispute entre les partisans de la règle franciscaine et leurs critiques, tous unis par une saine et catholique fidélité à la cour pontificale. Avec Michel de Cézanne se trouvaient frère Arnaud d'Aquitaine, frère Hugues de Newcastle et frère Guillaume Alnwick, qui avait pris part au chapitre de Pérouse, et puis l'évêque de Caffa et Béranger Talloni, Bonagrazia de Bergame et d'autres minorites de la cour avignonnaise. Du côté opposé étaient assis Laurent Descoalcon, bachelier d'Avignon, l'évêque de Padoue et Jean Danneau, docteur en théologie à Paris. À côté de Bernard Guy, silencieux et pensif, il y avait le dominicain Jean de Beaune, qu'en Italie on appelait Giovanni d'Albena. La séance fut ouverte par Abbon, qui jugea opportun de résumer les faits les plus récents. Il rappela qu'en l'an du Seigneur 1322, le chapitre général des frères mineurs, s'étant réuni à Pérouse sous la conduite de Michel de Cézanne, avait établi après mûre et diligente délibération que Christ, pour donner un exemple de vie parfaite, et les apôtres pour se conformer à son enseignement, n'avaient jamais possédé en commun la moindre chose, aussi bien à titre de propriété que de seigneurie, et que cette vérité était matière de foi saine et catholique. Qu'à cette vérité s'était tenu en 1312 le Concile de Vienne et que le pape Jean lui-même, en 1317, dans la Constitution sur l'état des frères mineurs, qui commence « Quorundam exigit », avait commenté les délibérés de ce concile comme saintement composés, lucides, solides et mûrs. Cependant, l'année suivante, le pape promulguait la décrétale « Ad conditorem canonum », contre laquelle faisait appel frère Bonagrazia de Bergame, la jugeant contraire aux intérêts de son ordre. Le pape avait alors décloué la décrétale des portes de la cathédrale d'Avignon, où elle avait été clouée, et il l'avait amendée sur plusieurs points. Mais en réalité, il l'avait rendue encore plus âpre. Preuve en était que, comme conséquence immédiate, frère Bonagrazia avait été gardé une année en prison. Et on ne pouvait avoir aucun doute sur la sévérité du souverain pontife, car, la même année, il promulguait la désormais célèbre « Cum inter nonulos », où se voyaient définitivement condamnées les thèses du chapitre de Pérouse. C'est alors que prit la parole, interrompant courtoisement à bon, le cardinal Bertrand. Il dit qu'il fallait rappeler comment, pour compliquer les choses et irriter le souverain pontife, était intervenu en 1324 Louis le Bavarois avec la déclaration de Sachsenhausen, où l'on adoptait sans aucune raison valable les thèses de Pérouse, et on comprenait mal, remarqua Bertrand avec un fin sourire, comment il se faisait que l'empereur acclama avec un tel enthousiasme une pauvreté qu'il était bien loin de pratiquer, lui, prenant des positions antagoniques contre Messer le pape, l'appelant inimicus pacis et le disant tout occupé à susciter scandales et discordes, le traitant pour finir d'hérétique et même d'hérésiarque. « Pas exactement, » fit Abon en médiateur. « En substance, si, » dit Bertrand d'un ton sec. Et il ajouta que c'était précisément pour riposter à l'intervention inopportune de l'empereur que Messer le pape avait été contraint de promulguer la décrétale « Quia quorundam » et qu'il avait enfin sévèrement invité Michel de Cézanne à se présenter devant lui. Michel avait mandé des lettres d'excusation, se disant malade, chose dont personne ne doutait, envoyant à sa place frère Jean Fidanza et frère Modeste Custodio de Pérouse. Mais le hasard voulut, dit le cardinal, que les guelfes de Pérouse eussent informé le pape que, loin d'être malade, Fra Michel entretenait des contacts avec Louis de Bavière. Et en tout cas, ce qui avait été ayant été, maintenant Fra Michel semblait d'aspect bel et serein, et on l'attendait donc en Avignon. Cependant, mieux valait, admettait le cardinal, jauger d'abord, comme on le faisait en ce moment, en présence d'hommes prudents des deux parties, ce que Michel dirait ensuite au pape, étant donné que le but de tous était bien de ne pas envenimer les choses et de mettre fraternellement fin à une dissension qui n'avait pas lieu d'être entre un père aimant et ses fils dévoués et qui, jusqu'alors, ne s'était ravivée qu'à cause des interventions d'hommes du siècle, empereurs ou leurs vicaires comme on veut, lesquels n'avaient rien à voir avec les questions de notre sainte mère l'Église. Alors intervint Abon, et il dit que, tout en étant homme d'Église et abbé d'un ordre auquel l'Église devait tant, un murmure de respect et de déférence parcourut les deux côtés de l'hémicycle, il ne pensait pourtant pas que l'empereur dût demeurer étranger à de telles questions, pour les nombreuses raisons que frère Guillaume de Baskerville exposerait par la suite. Mais, disait toujours Abon, il s'avérait toutefois juste que la première partie du débat se déroula entre les envoyés pontificaux et les représentants de ces fils de Saint-François qui, du fait même d'être intervenus à cette rencontre, démontraient qu'ils étaient les fils très fidèles du souverain pontife. Et donc, il invitait frère Michel ou l'un des siens, parlant en son nom, à dire ce qu'il entendait soutenir en Avignon. Michel dit que, pour sa joie et son émotion, se trouvait parmi eux ce matin-là Hubertin de Casals, à qui le pontife lui-même, en 1322, avait demandé une relation motivée sur la question de la pauvreté. Et Hubertin, justement, pourrait résumer avec la lucidité, l'érudition et la foi passionnée que tout le monde lui reconnaissait les points capitaux de ce qu'étaient désormais et indéfectiblement les idées de l'ordre franciscain. Hubertin se leva, et à peine commença-t-il à parler que je compris comment il avait pu susciter un tel enthousiasme, et en tant que prédicateur, et en tant qu'homme de cour. Le geste passionné, la voix persuasive, le sourire fascinant, le raisonnement clair et conséquent, il s'attacha à son auditoire pendant tout le temps qu'il eut la parole. Il débuta par une disquisition fort docte sur les raisons qui confortaient les thèses de Pérouse. Il dit qu'avant tout, on devait reconnaître que Christ et ses apôtres furent dans un double état, parce qu'ils ont été les prélats de l'Église du Nouveau Testament, et ainsi possédèrent-ils, pour donner aux pauvres et aux ministres de l'Église, comme il est écrit dans le 4e chapitre des Actes des Apôtres. Mais, secondement, on doit considérer Christ et les apôtres comme des personnes particulières, parfaits contempteurs du monde. Et alors se proposent deux manières d'avoir. L'une est civile et mondaine, raison pourquoi un comte est de défendre civilement et mondainement son propre bien contre celui qui veut nous le prendre, en faisant appel au juge impérial, mais dire que Christ et les apôtres possédèrent quoi que ce fût de cette manière est une affirmation hérétique, car comme le dit Matthieu, « Celui qui veut t'attaquer en justice et t'enlever ta tunique, abandonne-lui aussi ton manteau. » Et Luc ne dit pas autre chose. Là où Christ repousse toute offre de domination et de seigneurie, même refus qu'il impose aussi à ses apôtres, et puis qu'on se reporte en outre à Matthieu, où Pierre dit au Seigneur qu'ils abandonnèrent tout pour le suivre. Un autre compte de posséder toutefois des choses temporelles, en raison de la charité fraternelle commune, et de cette manière Christ et les siens eurent des biens par raison naturelle, pour sustenter la nature. Et ainsi, ils eurent des vêtements et des pains et des poissons, et comme dit Paul dans la première à Timothée, « Nous avons les aliments et de quoi nous couvrir, et nous sommes contents. Mais ces choses, Christ et les siens les eurent non en possession, mais bien en usage, leur absolue pauvreté restant sauve. Ce qui a déjà été reconnu par le pape Nicolas II dans la décrétale Exiit qui seminat.